With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets que je suis très heureux de reprendre en main, enfin, dans ma poigne ferme. L'émission est revenue, je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui de plein de choses hyper intéressantes, notamment les Dogecoin. Qu'est-ce qui se passe autour de cette crypto-monnaie qui pourrait me rendre riche potentiellement ou peut-être pas? On va parler des rançongiciels autour desquels les choses commencent à bouger un petit peu, d'écrans nocifs pour les ados, peut-être ou pas, de Facebook contre Trump, évidemment, ça continue, et de plein d'autres petites choses. Je suis très heureux de vous recevoir et je suis également très heureux de recevoir Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric ?
Écoute, formidable. Enfin, en tout cas, je suis en meilleure forme que toi, de manière totalement objective, hein, parce que je sais où tu es là, je sais où tu en es de ta vie, c'est-à-dire au bout du rouleau.
Les gens ne se rendent pas compte à quel point faire des podcasts, c'est un petit peu the show must go on. Et tu vois, c'est now it's showtime. Ouais. You have to put on a brave face. Tu dois être fort et tu dois faire l'émission énergique. Ouais. Je peux vous assurer qu'il y a 5 minutes, j'avais pas cette énergie dans la voix et que 5 minutes après la fin de l'émission, j'aurais plus cette énergie dans la voix non plus. Pour ceux qui savent pas, je viens d'avoir mon deuxième.
Je te promets. Voilà. Et avec le temps, je te promets, il ne restera que les bons souvenirs.
Écoute, sur le premier, il reste pas que les bons souvenirs. Hein. Il a 3 ans maintenant et il est quand même bon. Il y a des bons souvenirs aussi, bien sûr. Mais les
3 ans, c'est super. Tu rentres dans une fenêtre intéressante à partir de 3 ans. Mmh. De 3 ans à 9 ans, ils sont charmants, intéressants, ils évoluent et t'as encore que des petits problèmes.
Mmh. Ouais. Je sais, tout le monde dit petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Quand tu es réveillé depuis 4 heures au milieu de la nuit, que tu es sur 4 heures de sommeil les 3 nuits précédentes, les problèmes n'ont pas l'air petits hein, dans ta tête, mais peut-être.
C'est déjà beaucoup ou c'est déjà bien?
Ouais. Bon. Écoute, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. A priori, c'est surtout des problèmes de digestion. Et effectivement, en fait, il y a quoi? Il y a 2 types de personnes dans la vie. En fait, il y en a 3. Le premier type, c'est les gens qui n'ont pas eu d'enfants et qui pensent qu'avoir des enfants, c'est genre « Ah ouais, non, mais c'est que du bonheur. Si, c'est un petit peu difficile,
Ils ont des images de générique de la petite maison dans la prairie, c'est avec les c'est enfants ça, qui courent dans les champs.
C'est ça. Ça.
Oui, c'est ça. Oui, ça et, oui. On les connaît, celles-là.
Et les gens qui ont eu des enfants, c'est l'autre catégorie qui savent ce que c'est vraiment. Il y a la 3e catégorie qui sont les gens qui ont eu des enfants, mais des enfants spéciaux qui étaient faciles. Genre, ah non, le mien, il a fait ses nuits assez vite, tu vois, ce genre de choses. Et ils disent, ah ouais, c'est vrai, c'est un peu difficile.
Il faisait ses nuits, il dormait 12 heures à 6 semaines, vraiment, nickel. Et puis, c'est ça. Il mangeait bien, c'est ça, le truc, le long fleuve tranquille.
Ils disent, ah ouais, non mais c'est vrai que c'est difficile quand ils pleurent quand même. Hein. Genre, ils savent, tu sais. Mais non, c'est ceux que je déteste le plus des 3 groupes. C'est genre, ils croient qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Bref, je vous fais des bises à tous, surtout si vous êtes parents. Et surtout, si vous êtes parents seuls, je ne sais même pas... Je le disais déjà avec l'arrivée du premier, je ne sais même pas comment font les parents seuls. Les parents sont des super-héros, mais les parents seuls, c'est carrément le pinacle des super-héros. Bref, est-ce
absolument.
Que tu...
Si vous nous rejoignez à l'instant, nous bienvenue dans Histoire de Daron.
C'est un peu ça, il faudrait que je retourne dans l'émission de Fabrice pour reparler de mon expérience maintenant qu'il y a une deuxième. Je rassure quand même les auditeurs qui ont vécu mon désespoir d'il y a 3 ans quand le premier est arrivé. Même avec tous les problèmes qu'on a avec la deuxième, je touche du bois, c'est quand même moins dur que ça ne l'était avec le premier. Et ça, c'est vu comme c'est compliqué avec la deuxième maintenant, c'est significatif de dire ça. Bon, ok. Est-ce que tu veux qu'on parle Dogecoin, Cédric ?
Ils ont vraiment le choix.
Écoute, malheureusement, nous couvrons l'actu. Donc, on va faire ça. Juste avant, je voudrais quand même remercier ceux qui me permettent de, d'acheter des couches, d'acheter du lait et des biberons pour ma petite fille. Et ce sont ceux qui contribuent à l'émission, qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je voudrais remercier Anansi, Sylvain TBR, Cadiax, Sébastien Fournier, Julien Quénon et Stinx. Merci à vous tous et également à Stéphane Grégory Sata, qui est le producteur de cette émission, qui est un contributeur particulier et dont je suis certain que si lui, il était un parent ou s'il l'est, il est parmi les parents formidables que j'adore, évidemment. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission. On reparlera dans un instant de Patreon. Mais donc, les Dogecoin. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit. Les Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui a été créée il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, en 2011, je crois, et qui a été créée comme une blague, en fait. C'est une crypto-monnaie même qui est à l'image de Doge, d'un Doge. C'est une manière mimesque de dire un chien. C'est un dog, hein, donc on dit un Doge. Et il y a l'image qu'on connaît bien du Dogecoin, du chien du Dogecoin, qui est l'emblème des Dogecoin. Et donc, c'était une crypto-monnaie qui a été lancée au moment où on a commencé à avoir l'explosion des crypto-monnaies, des bitcoins, et c'était vraiment créé comme une blague. Hein. Il y a eu plein de coins, de crypto-monnaies qui ont été créées sur cette période. Beaucoup sont tombés dans l'oubli, mais Doge était tellement ridicule que bah, ça a un petit peu tenu le test du temps, comme on dit en anglais, et qu'on en entend encore parler aujourd'hui. Elle est toujours restée un petit peu dans le fond, comme une crypto-monnaie secondaire, tertiaire, qui valait rien, mais qui était marrante à avoir. Et donc, il y avait plein de gens qui l'avaient et qui l'utilisaient bah, pour pas grand-chose, parce qu'on ne peut pas vraiment en faire grand-chose. Sauf que, avec l'histoire de GME, de GameStop et de la manipulation qu'en ont fait certains organes de Reddit, eh ben, ils se sont tournés vers d'autres valeurs, généralement des valeurs boursières, mais également vers le Dogecoin. Et il y a eu une sorte d'effet d'entraînement internetien qui a fait que la valeur du Dogecoin a commencé à monter parce qu'ils se sont dit « on va monter les Dogecoins à 1 dollar ». Il valait quelques cents à l'époque. Eh bien, ça a continué en toile de fond et la valeur a continué à monter jusqu'à ce qu'elle atteigne presque 1 dollar. Elle était autour de 70 cents le Dogecoin il y a quelque temps. Alors évidemment, c'est une fraction infime de ce que valent les bitcoins. Hein. Les bitcoins coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars pièce. Mais les Dogecoin sont maintenant à, on va dire, entre 50 centimes et 1 dollar. Et ils ont été alimentés, cette spéculation a été alimentée notamment par des tweets de l'inévitable Elon Musk.
L'incontournable,
voilà, c'est ce que je voulais dire. Elon Musk qui a fait des tweets dessus sur différents thème en disant oui, les Dogecoin c'est sympa, les Dogecoin c'est n'importe quoi. Il est apparu à Saturday Night Live ce week-end, l'émission d'humour de sketch américaine, et il a dit que les Dogecoin c'était en gros un petit peu une arnaque en live, ce qui a fait perdre la moitié de la valeur des Dogecoin. Ils sont passés de, que je regarde mes notes, de 70 cents à 48 cents en quelques heures, et puis ils sont remontés un petit peu après la fin de l'émission. Et en gros, il y a plein de gens qui commencent à se demander si les Dogecoin, c'est pas la prochaine crypto-monnaie qui va valoir quelque chose. Et du coup, je me tourne vers notre expert tech national, Cédric Ingrand. Je vais poser la question. Est-ce que les Dogecoin, c'est quoi l'histoire en fait? C'est une arnaque? C'est un truc qui va, par blague peut-être, non, mais valoir quelque chose?
Non, tu l'as parfaitement décrit. C'est un altcoin, comme on dit, un coin alternatif, qui a été créé par deux mecs qui voulaient rigoler, quoi, en disant « Regardez, on a fait un coin complètement idiot qui ne sert à rien, parce qu'il n'a pas d'utilité particulière, et avec un chien, un Shiba Inu comme symbole. » Et tout ça vivotait doucement depuis 2013-2014, la création de Dogecoin. Donc ça date, tu le disais bien, ça date pas d'hier. Et là, c'est vraiment Elon Musk qui l'a un peu ressorti de la naphtaline, parce que ça a ce côté, c'est une espèce de petite icône geek, tu vois, le Dogecoin, justement parce que ça ne sert absolument à rien. Et le problème, évidemment, c'est que, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, les Américains, en ce moment, ils ont trop d'argent. Ils reçoivent des chèques du gouvernement dont ils ne savent que faire, pour 80% d'entre eux. Donc, soit ils les investissent en bourse, soit ils achètent du Bitcoin avec. Alors, une fois qu'ils ont acheté du Bitcoin, on peut croire à une diversification comme ça. Et de fait, on rigole en disant « Ouais, bon, ok, ça vaut... » Ça vaut quoi? Ça vaut, 50, 60, 70 cents. Oui, enfin, il y a 113 milliards de pièces de coins en circulation. Donc, ça veut dire que si Dogecoin était une entreprise, elle serait aux alentours d'une valeur de 50 milliards de dollars. J'essaie de trouver des comparables en termes de valeur, mais tu rejoins, ça vaut plus que Renault, que PSA. Est-ce que ça vaut plus que Airbus? Je ne sais pas.
Alors, oui, mais c'est comme dire...
Pour un
c'est
truc comme qui dire... ne sert à rien et qui est une blague.
C'est comme dire, il y a tant de plomb sur Terre, donc ça vaut tant, mais si on peut rien en faire, enfin bon, le plomb, on peut en faire quelque chose, mais si on peut rien en faire, c'est pas que c'est tout à coup une valeur intéressante. Tu disais, il y a 113 milliards de Dogecoin, c'est effectivement 2013, l'année de création, j'avais dit 2011, je me suis trompé de quelques années, et comme je l'avais mentionné dans certaines émissions précédentes, j'avais reçu d'un ami 20 000 Dogecoin au moment de la création, parce qu'il s'était amusé à en miner, et il m'en avait envoyé 20 000 et je ne sais pas où ils sont. Enfin, ils étaient sur un ancien disque dur et ils se sont perdus dans les méandres de mes reformatages, très certainement. Et du coup,
ça doit être le cas pour une bonne partie des 113 milliards de coins. Ouais. Tu vois, distribués jusque-là, il y en a plein qui doivent moisir sur des clés USB ou des disques durs dans des décharges publiques parce qu'évidemment, ça n'avait pas d'usage particulier donc.
C'est tout le problème, en fait. Malheureusement, j'aurais pu... Alors là encore, on va dire que ce n'est pas une richesse à changer ta vie, parce que les 20 000 Dogecoin m'auraient fait quoi, 14 000 dollars, 13 000 dollars, quelque chose comme ça, si je les revendais aujourd'hui, si je les avais. Donc c'est cool, mais ça change pas, ça fait pas de moi un milliardaire, on va dire. Peut-être qu'ils vont continuer à monter. C'est un petit peu la grande question. Tu disais, il y a plein d'Américains qui ont beaucoup de temps et de l'argent, et donc ils s'amusent ou ils espèrent investir ou ils espèrent devenir riches avec toutes ces histoires de spéculation. C'est vrai aussi que mettre de l'argent à la banque, ça rapporte très très peu vu que les taux d'intérêt sont très très bas et donc c'est vrai que ça amène une certaine quantité de cash dans ces valeurs un petit peu soit blague soit spéculative. Le problème avec les Dogecoin, c'est qu'à ce stade, comme tu le dis très bien, on peut rien en faire. Que je sache, alors à part Elon Musk qui dit encore il va y avoir une utilité pour les Dogecoin, il y a une société qui va payer la mise en orbite d'un satellite avec SpaceX en Dogecoin. Donc il va s'appeler
Ce matin encore, Elon Musk tweetait en demandant est-ce que vous voulez pouvoir acheter une Tesla avec des Dogecoin? Il en faut un certain nombre quand même.
C'est sûr.
La seule chose que tu puisses faire avec des Dogecoin, c'est les échanger contre d'autres crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin ou autre chose. Donc c'est vraiment un pur instrument de spéculation aujourd'hui. On ne peut même pas appeler ça un investissement. Mais évidemment, tu as des gens qui se sont dit « Bon, à 5 centimes le bout, ok, j'en achète 1000 et puis on verra, tu vois ce que je veux dire ?»
Exactement. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu peux rien en faire, tu peux les vendre à des gens qui veulent en acheter, comme n'importe quelle valeur. C'est pas uniquement les échanger contre des crypto-monnaies, tu peux les vendre si tu veux. Mais là où Bitcoin, tu peux payer sur PayPal, il y a plein de... Pas tout le monde, bien sûr, mais il y a plein de commerces qui acceptent les Bitcoins. Les Dogecoin, personne ne les accepte et on peut rien en faire. Ou presque.
Oui, mais en même temps, personne ou presque n'utilise les bitcoins pour acheter quelque chose. C'est pas une monnaie d'échange. C'est une valeur d'investissement. C'est tout comme tu vas pas chez Carrefour avec tes lingots d'or. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est quand même frappant, hein, c'est que Dogecoin est maintenant la quatrième crypto-monnaie en termes de valeur,
ouais.
En termes de capitalisation, si tu veux, devant des choses qui, elles, ont une utilité, sont liées à des choses plus sérieuses ou à des entreprises derrière. Le truc, c'est qu'il n'y a personne derrière.
Le pouvoir d'Internet. Ouais, non, mais il n'y a personne. Et disons que les bitcoins, pendant longtemps, tu ne pouvais rien faire avec non plus. Qui pense, alors je suis sûr qu'il y a plein de gens, notamment Elon Musk, qui spéculent avec les Dogecoin. Lui, il doit en avoir quelques millions, j'imagine, et il se dit bon, si ça monte, pourquoi pas, tu vois, il s'amuse, il rigole. Mais peut-être qu'à un moment, c'est le genre de truc qui peut faire effet boule de neige. Je pense pas que ça se produira, parce que vraiment, c'est vraiment c'est une blague, le Dogecoin, mais peut-être que petit à petit, des sociétés vont se mettre à accepter des Dogecoin. Il suffirait, par exemple, que pourquoi pas PayPal dise, alors on n'y est pas du tout, hein, mais PayPal dise, bon, bah, on accepte aujourd'hui les Bitcoins et les Dogecoin, bah là, tout à coup, la valeur devient beaucoup plus grande, la valeur de cette crypto-monnaie-là devient beaucoup plus grande. Donc,
mais le problème, en fait, c'est que les crypto-monnaies avec lesquelles on va acheter des choses seront des crypto-monnaies stables, ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des équivalents de devises normales, comme un euro numérique, un dollar numérique, ce genre de choses. Là encore, tu n'as pas envie de dépenser ton argent au jour le jour avec des choses qui sont faites pour de l'investissement. Donc, ouais. Donc je pense qu'à un moment, il va y avoir une dichotomie entre toutes ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant d'arriver à créer de la valeur sur rien ou sur pas grand-chose. Mais en même temps, ce n'est pas la première fois qu'il y a tu vois, des petites folies acheteuses sur des choses qui n'ont pas de valeur. Tu vois, souviens-toi des pins.
Les pins, oui, c'est vrai. Tout le monde parle des tulipes, mais c'est vrai que les pins ou les... Enfin, il y a plein de trucs comme ça, des cartes à collectionner. Il y a plein de gens peut-être qui en achètent justement dans ce but, une valeur complètement spéculative. Bon, c'est marrant avec les Dogecoin parce que c'est vraiment fait comme une blague et c'est un exemple de l'emballement de la... Je ne sais pas, il faudrait trouver un terme pour ça. C'est l'emballement de l'Internet, mais pour la blague, quoi. C'est la règle de 4chan ou la règle de Reddit.
Donc, oui, c'est ça, c'est l'alternet a encore frappé, quoi.
L'alternet, c'est pas mal, ouais, l'emballement de l'alternet ou je sais pas comment on peut dire ça, le syndrome de Reddit. Et si vous trouvez un nom, mettez-moi sur Twitter ou dans les commentaires, le syndrome de Reddit ou un truc comme ça, je sais pas, bref. Donc voilà pour votre point sur les Dogecoin, maintenant vous comprenez. Parlons un peu rançongiciel, les ransomware. Il y a eu un truc qui s'est passé, c'était à peu près ce week-end. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, Cédric. C'est une attaque sur des oléoducs, sur des pipelines aux États-Unis. Oui. C'est une société qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, Colonial Pipeline. C'est un nom un peu malheureux, je trouve, mais bon. Colonial Pipeline, qui a dû arrêter le fonctionnement de tous ces oléoducs et ces gazoducs à cause d'une attaque de rançongiciel d'un organisme, je ne sais pas si on peut dire mafieux, mais en tout cas criminel, qui s'appelle DarkSide. Ils ont bien choisi leur nom et qui ont fait une attaque.
Moi, ce nom-là est bien choisi. Ouais, y a pas, on sait de quoi on parle.
C'est ça, exactement. Il n'y a pas de place à la spéculation, justement. On sait très bien de quoi il s'agit. Et ils ont d'une part volé des documents à Colonial Pipeline et ensuite activé leur rançongiciel qui a bloqué leur système et qui a donc, c'est là que c'est important, provoqué des dysfonctionnements dans le système. Ils ont dû arrêter leur pipeline. Alors, on n'a pas une idée exacte de tous les dysfonctionnements, mais clairement, ça a un impact sur l'infrastructure sociétale générale. Le groupe DarkSide a annoncé après cet événement qu'ils allaient maintenant avoir un petit peu de mettre un peu de responsabilité dans leurs attaques. Ils vont dire, ils ont dit « Notre but n'est pas de lancer des attaques sur des infrastructures sociales et de disrupter cette infrastructure sociale. Donc, à partir de maintenant, notre ransomware as a service, qui est leur modèle, ils proposent des ransomware comme service à un petit peu n'importe qui, eh bien, ils vont avoir une sorte de mécanisme de modération pour évaluer si oui ou non ils peuvent lancer une attaque ransomware ou non sur une société. Alors, il y a évidemment quelque chose d'important dans la gestion criminelle de la chose. J'imagine que ce genre d'attaque à grosses répercussions médiatiques n'est pas bon pour eux parce que ça attire sur eux le regard des autorités et de la police, encore plus peut-être que quand c'est une société un petit peu plus petite qui ne fait pas beaucoup de bruit quand elle se fait attaquer. Et en plus de ça, on a eu une autre information qui est tombée, c'est que AXA, évidemment l'assureur bien connu, a annoncé qu'ils allaient arrêter de rembourser les paiements de rançon dans le cas des attaques de rançongiciels. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les assurances payaient, remboursaient le paiement de la rançon dans ce type d'attaque. Évidemment, c'est facile de comprendre pourquoi ça peut être problématique. Je pense que la première réaction de certains pourra être « Oh là là, les assureurs essayent encore d'arnaquer tout le monde en ne remboursant pas des choses. Bah, » Évidemment, quand on rembourse le paiement de la rançon, on encourage les sociétés à payer une rançon. Et donc, c'est un petit peu on ne négocie pas avec les terroristes. Pourquoi ? L'idée, ce n'est pas qu'on ait des militaires forts dans un état policier. Ce n'est pas ça, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes parce que si on le fait, ça les encourage à continuer. Et là, c'est un petit peu le même principe. Si on paye les rançons, ça encourage la pratique du rançongiciel par les groupes criminels. Et donc, AXA a décidé, on ne va plus rembourser, dans le cadre des assurances, ces paiements de rançon. À côté de ça, en plus de ça...
C'était des choses qui étaient assurées au terme, c'était des choses qui étaient assurées dans une enveloppe, tu vois, sur les dommages informatiques. Mais le truc, c'est que c'est devenu, je crois qu'il y a une étude qui est sortie, je crois que ça rapporte maintenant 40%. De ce que pas des primes d'assurance, mais des sinistres couverts par les assurances, des sinistres informatiques couverts par les assurances. Donc évidemment, c'est devenu un truc. Enfin, tu vois, c'est que si tout à coup toutes les voitures devenaient volantes, je pense que ton assurance évoluerait aussi. C'est-à-dire que si tout à coup il y avait une évolution telle, donc je pense qu'ils vont juste renégocier leur contrat pour inclure ça. Mais ce sera pas.
Ah, mais
à
moi,
mon avis,
je pense pas.
Très
moi,
clairement,
je pense que c'est
au même prix.
Je pense que c'est une question de... Ils vont juste plus rembourser. Et je pense que d'autres vont suivre. D'autres sociétés vont suivre ensuite dans leur pas. D'autres sociétés d'assurance. Parce que c'est contre-productif, au final. Moi, je ne pense pas que ça soit une question uniquement financière. Bien sûr, ça joue. Je me trompe peut-être. Hein, mais moi, je crois que c'est une question de... Pas de santé publique, mais enfin de santé informatique. Et d'ailleurs, beaucoup de bruit commence à être fait autour de ces histoires de rançongiciel, notamment au niveau des États, les Américains s'y intéressent, les Européens s'y intéressent, parce que je ne savais pas que c'était 40%, c'est énorme, mais c'est vrai que ça représente un vrai problème de sécurité informatique, bien sûr, financier ensuite, etc., etc., et puis d'infrastructure parfois. Je ne l'ai pas rappelé, mais je vais le faire, les rançongiciels, ça fonctionne de la manière suivante. Une attaque informatique s'introduit dans votre système informatique et vous bloque l'accès au système informatique en vous demandant le paiement d'une rançon pour débloquer le système. Généralement, le paiement, d'ailleurs, est fait en Bitcoin. C'est assez fréquent que ça se passe de cette manière. Et le problème, c'est que si c'est suffisamment bien verrouillé, il y a des sociétés qui essayent de vous aider à déverrouiller le truc, mais souvent, ce n'est pas possible. Et donc, beaucoup de sociétés choisissent de payer, ce qui est généralement une mauvaise idée parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus accès à vos documents. Et certains visiblement déverrouille les trucs, mais bon, bref, on va pas rentrer dans ces histoires là. C'est le fonctionnement des rançongiciels. Avec tout ça, je sais pas si on peut s'attendre à ce que les rançongiciels commencent à être un petit peu moins fréquents. Qu'est-ce que tu penses, toi?
Il n'y a pas de raison. C'est un système tellement efficace. Si tu veux, c'est dur de se détourner de ça si tu es cybercriminel. Moi, j'adore l'histoire de DarkSide quand même, tu vois, des groupes de cybercriminels qui disent. Non, les gars, je crois quand même qu'on a un problème d'image avec cette histoire.
Et il s'appelle DarkSide.
Alors, ne confondez pas. Nous sommes des cybercriminels, nous ne sommes pas des terroristes. We're only in it for the money. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est juste votre argent. On n'a pas de jugement moral. J'adore, je trouve ça extraordinaire. Mais je pense aussi qu'ils se sont fait un peu peur parce qu'ils se sont aperçus qu'ils s'attaquaient à quelque chose qui, de fait, est une infrastructure sensible.
Non, je pense pas que les rançongiciels vont s'éteindre de sitôt, parce que c'est quand même d'une efficacité remarquable, et on le voit énormément chez nous. C'est-à-dire, je crois que la France est le deuxième pays du rançongiciel, juste derrière les États-Unis, en termes de victimes, hein, pas en termes d'opérateurs. Parce que là, il faut regarder, je ne sais pas, plus à l'est, voire très très à l'est. Enfin, bon, il y en a un peu partout. Non, c'est un vrai problème. Pas que pour des grosses infrastructures, parce que grosses infrastructures, ça veut dire aussi grandes entreprises, et ça veut dire des gens qui ont des moyens, et ça, etc. C'est aussi
donc, qui appelle la police,
des petits hôpitaux, ouais. Des petites cliniques, des PME, des PME industrielles, etc., qui se retrouvent bloqués du jour au lendemain et que ça peut mettre, dont ça peut retourner l'économie comme une crêpe, quoi.
Oui, et puis surtout, c'est compliqué parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais ? Ton système est bloqué du jour au lendemain. Tu peux appeler la police, mais qu'est-ce que tu vois ? Ils vont pas. Tu peux appeler des sociétés qui vont essayer de te débloquer, mais si c'est bien fait, le verrouillage, il faut repartir de zéro et c'est une opération qui est hyper compliquée. Tu es quasiment obligé de jeter tout ton matériel informatique, de racheter du nouveau et de repartir à zéro. C'est vraiment, vraiment compliqué comme situation. Et donc, la tentation de payer est évidemment forte. Et quand tu dis c'est un truc qui est tellement facile, les rançongiciels, c'est vrai que tu lances des attaques plus ou moins ciblées sur des dizaines de sociétés. Il y en a une qui mord à l'hameçon de temps en temps. Tu récupères, et certes, c'est pas qu'ils vont demander des millions de dollars quand c'est une petite PME locale. Ils vont demander quelques centaines, quelques milliers d'euros, peut-être un petit peu plus en fonction de la taille de la société, quelque chose qu'elle peut payer. Et voilà, et ça passe sous silence. C'est vraiment compliqué. Mais les autorités, les administrations commencent à s'y intéresser, à se rendre compte ils ont suivi la croissance du problème. Peut-être qu'il y aura des task forces plus importantes qui vont commencer à s'y intéresser, à suivre les groupes qui effectuent ce genre d'attaques plus spécifiquement, parce qu'il faut quand même un minimum d'organisation, donc que ça deviendra un domaine criminel comme un autre, quoi. Ça, c'est le chemin que ça a l'air de prendre.
La seule chose que l'on puisse conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est de faire des sauvegardes régulières.
Ouais, très régulière. Et le problème, c'est que tu fais tes sauvegardes. Maintenant, les rançongiciels attendent genre quelques semaines avant d'activer le truc, une fois qu'ils sont introduits dans le système. Comme ça, même tes sauvegardes, si tu dis je fais des sauvegardes toutes les deux semaines ou tous les mois et j'en garde deux ou trois, eh ben, tu peux avoir tes sauvegardes également vérolées par le truc parce qu'ils ont attendu. Bref, c'est assez problématique, quoi. Bon, voilà pour nos sujets principaux. Je vous propose qu'on continue avec d'autres sujets, comme par exemple, les écrans sont-ils nocifs pour les ados? On va en parler dans une seconde. Mais avant ça, je voudrais vous dire un mot sur Patreon. Vous connaissez possiblement Patreon si vous suivez cette émission depuis un moment. Mais si vous ne suivez pas, c'est un moyen hyper sain de financer l'émission. Et comme je le disais à l'épisode précédent, il y a un truc dont je me suis rendu compte avec ma petite pause dans l'animation de l'émission. En prenant un peu de recul, je me suis rendu compte à quel point à quel point, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais à quel point l'émission peut être utile. Alors, je ne vais pas dire uniquement la mienne, mais les émissions de ce type peuvent être vraiment utiles, peuvent rendre des services aux gens qui les écoutent. Parce que notre travail, c'est de lire, de digérer, de comprendre et de résumer l'actualité qui est vraiment compliquée depuis presque, je ne sais pas, 12-13 ans que je fais cette émission. Les choses sont devenues beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes qu'avant. Et donc, comprendre tout ça, c'est vraiment difficile, c'est pas évident, ça demande une certaine expertise, ça demande beaucoup de temps pour la veille que les gens n'ont pas le temps de prendre. Moi, quand j'étais en train de m'occuper de ma fille, je suivais vaguement pour ma veille ce qui se passait et je me disais sur un article sur deux, bon ok, ça j'ai pas le temps de m'y plonger un petit peu plus, de lire trois articles sur le sujet, d'écouter un podcast sur le sujet, je vais juste attendre le rendez-vous tech et ils vont tout m'expliquer en une heure de manière sympa. Et ben c'est le but de cette émission, vous faire gagner du temps, vous faire comprendre les choses et j'espère que ça vous rend service. J'espère que c'est une émission qui est pas juste un bon moment qu'on passe ensemble, même si j'espère que c'est ça aussi, mais j'espère que c'est une émission qui vous aide quelque part, qui vous est utile. Et si c'est le cas, J'aimerais vraiment vous encourager à faire un tour sur Patreon. Patreon.com/RDVTech, c'est l'endroit où vous pouvez soutenir l'émission avec des vrais euros sonnants et trébuchants. On ne peut pas encore accepter ni les Dogecoin ni les Bitcoins, mais vous pouvez financer l'émission à hauteur de presque rien, 1 euro ou 2 euros, ce que vous voulez, le prix d'un café. J'espère que l'émission vous apporte, si vous l'écoutez régulièrement, toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, depuis quelques mois au moins, depuis quelques années peut-être, j'espère que ça vaut un euro. Que pour vous, ce travail effectué, ce bon moment passé utile en notre compagnie, vaut un petit euro. Si c'est le cas, allez sur patreon.com/rdvtech et regardez les bonus qu'on peut offrir en plus de la satisfaction de soutenir l'émission. Et j'espère que vous deviendrez une personne qui contribue à l'émission, qui est active dans cette mécanique de financement, parce que évidemment l'émission n'existe que parce qu'il y a des gens qui la soutiennent. Donc merci à tous ceux qui le font déjà. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Si vous êtes occupé en ce moment parce que c'est le retour de l'été, c'est super bonheur partout à l'extérieur, et ben quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous vous dites « Oh Patrick, cling Patrick !» C'est un moyen mnémotechnique extrêmement simple pour se souvenir que quand vous arrivez chez vous, vous pouvez soit sur votre portable, soit sur votre ordinateur, aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech pour devenir un patriote de l'émission. Merci à vous tous. Cling Patrick.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alors, on continue avec un sujet intéressant, une étude c'est Oxford, je crois, l'université d'Oxford, qui a depuis des dizaines d'années, depuis 1991, suivi 430 000 adolescents aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qui a conclu au fait que le temps passé devant les écrans n'a pas d'influence sur la santé mentale des enfants. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important parce que on a généralement l'idée, je ne veux pas dire préconçue, mais qui n'est pas basée sur une quelconque série de preuves scientifiques ou de faits scientifiquement établis. On a l'impression que les gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans sont mal dans leur peau ou que la technologie est nocive pour les enfants. Eh bien, cette étude, qui est très sérieuse, très vaste, comme vous le comprenez, montre qu'il n'y a pas vraiment de lien de causalité ni même de corrélation entre le temps passé devant les écrans et la santé mentale des enfants. Oui, Cédric ?
Je pense que la différence, elle est là. La différence, elle est là. C'est-à-dire que là où on cherchait un lien de causalité, on ne l'a pas trouvé. En revanche, le lien de corrélation, il est bien là. C'est-à-dire que c'est surtout ce que les enfants font avec les écrans.
Alors, c'est ça la subtilité,
mais de fait, c'est
oui.
Passé. C'est... Oui, oui, c'est ça.
C'est-à-dire que la...
Bah vas-y, il y a quand même une... Il y a quand même, tu vois, c'est comme on dit en chimie, c'est pas la molécule, c'est la dose qui est toxique. Et c'est là-dessus, l'étude ne se prononce pas vraiment, mais de fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même des corrélations. Alors sur les usages, on le voyait dans l'étude, sur par exemple le fait de passer sa vie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément très bon pour le moral. Voilà.
C'est effectivement la partie un petit peu astérisque de l'étude. Ils ont étudié le temps passé devant les écrans, mais ils n'ont pas différencié les écrans, Donc, c'est vraiment une étude. Alors, elle a commencé en 91. Hein, vous imaginez bien qu'à ce moment, les smartphones n'étaient pas la priorité. Mais c'est important quand même, parce que moi, quand, un petit peu avant 91, l'idée, c'était que la télé était nocive pour les enfants. Mais bon, bref, on ne va pas repartir dans ce débat. Mes enfants, à moi, ne passent pas beaucoup de temps devant, devant la télé. Enfin, là, c'est pour des questions physiologiques. En plus, ils sont plus jeunes. Mais bref, là... il y a la subtilité qui est qu'ils n'ont pas étudié ce qu'ils font avec les écrans. Et notamment, la question des réseaux sociaux est évoquée. Ils ont mentionné qu'il y a, dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux, une légère augmentation, une corrélation entre un usage accru des réseaux sociaux et des problèmes émotionnels. Donc là, il faudrait plus d'études, mais effectivement, ça semble être, ça pourrait être lié. Mais d'une manière générale, l'étude tord un petit peu le cou à l'idée que parce que votre enfant passe beaucoup de temps devant les écrans, ou parce que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, ils ont des problèmes de santé mentale. À côté de ça, bien sûr, il faut savoir ce qu'ils font avec leurs écrans. C'est très, très général comme, comme conclusion, on va dire.
Oui, puis peut-être que finalement, c'est surtout les enfants déprimés qui restent rivés sur des écrans. Et ce n'est pas les écrans qui les ont rendus déprimés. Enfin, c'est la grande difficulté de ce genre d'études, parce que c'est quand même, tu l'as dit, ça fait quoi ? Ça fait près de 30 ans qu'elle dure. Donc, on est sur des usages qui, en plus, ont quand même largement évolué. On a avec, toi et moi, on a regardé la télé quand on était jeune, mais c'était quand même un truc plus passif. Et là, on est plus dans l'interaction, dans le contact, même si là encore, enfin, rien n'est parfait. La seule chose sur laquelle on s'accordera, c'est que, voilà, idéalement, un enfant, c'est mieux avec un livre à la main qu'un smartphone, enfin, jusqu'à quel âge. Mais là, tu n'en es pas encore là. Moi, je vais dans pas très longtemps arriver au moment où le plus vieux des trois, enfin, il me demande déjà un téléphone, bien évidemment. Mais t'inquiète pas, un Nokia 3210, ça va être super.
Et, il a quel âge
mais c'est vrai que c'est tout... il a 8 ans.
Et il veut un téléphone, oui.
Donc, pour l'instant, c'est hors de question. On en discutera quand il ira au collège. Mais parce que là, c'est quand même un moment où tu commences à prendre en indépendance, etc. Mais je sais que, pour l'avoir déjà fait, si je lui mets ne serait-ce qu'un iPod Touch dans les mains et qu'il a le droit d'installer des applications, etc., mais je le vois plus de la journée. Enfin, c'est-à-dire que c'est juste perdu, quoi. Par contre, c'est mignon parce qu'il m'envoie des messages. Il m'envoie des messages pour me dire qu'il m'aime, mais ça, c'est juste pour que je ne le reprenne pas. Donc,
évidemment.
Donc, c'est intéressant. C'est rassurant de se dire que le simple fait de passer du temps devant des écrans n'est pas la cause de problèmes dépressifs ou mentaux chez les enfants. Maintenant, ça ne répond pas en fait à la question à laquelle on aimerait répondre, qui est de dire, tu vois, quelle est la bonne dose, quels sont les bons usages, quels sont les bons âges, le bon âge pour tel ou tel usage. Enfin, là-dessus, on n'a pas les réponses. Et en plus, les réponses ne sont pas les mêmes pour tous les enfants et toutes les familles au même moment. Moi qui vis au milieu des écrans tout le temps, je ne pratique pas ce que je prêche. Enfin, je ne prêche pas ce que je pratique. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a plus de télé, par exemple. Alors, il y a un projecteur, machin, on peut regarder des films ensemble, mais ça devient des trucs qu'on fait ensemble. Tu vois.
Oui, mais il n'y a plus de télé qui est dans le fond, effectivement, chez moi non plus. Bon, écoute, pour les décisions compliquées, Facebook a également rendu, ou plutôt le Facebook Oversight Board a rendu sa décision par rapport à, au bannissement du compte du président, de l'ex-président Donald Trump. Et en gros, ils ont répondu... Comment dire ? Ils ont répondu sans répondre. Ils ont dit, vous vous souvenez, hein, le conseil de surveillance de Facebook, c'est le conseil auquel on réfère les cas compliqués de modération de Facebook, qui est composé d'experts indépendants qui ont un petit peu prouvé leur indépendance quand même ces dernières semaines en contredisant et en sermonnant Facebook à plusieurs reprises. Et donc, ils ont rendu leur décision sur la suspension du compte de Donald Trump en disant... OK, vous n'êtes pas obligé de le réintégrer à ce stade, mais vous auriez dû être plus clair dans vos explications et dans vos policies, dans vos... comment on dit policies en français ? Dans vos règles, tout simplement.
Vos règles, vos politiques internes, vos... Oui, tout à fait.
Politiques d'utilisation, vos contrats, vos termes d'utilisation. Vous auriez dû être plus clair et il n'y avait pas vraiment de raison claire du bannissement de Donald Trump. Je suis un petit peu perplexe devant cette décision.
Alors, moi, je l'ai lu autrement. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont repoussé... Tu vois, c'est un peu comme la Cour de cassation qui dit, écoutez, là, c'est compliqué, je propose qu'on rende... Parce qu'en gros, c'est vraiment comme une Cour de cassation, comme une Cour suprême. C'est-à-dire que c'est une instance qui va juger le droit plutôt que les faits. En gros, savoir est-ce que les règles sont bonnes et est-ce qu'elles sont bien appliquées. Et là, en l'occurrence, ce que le conseil de surveillance donc, a dit à Facebook, c'est « Attendez, vous l'avez suspendu pour une période indéterminée. » Pour nous, ce n'est pas une sanction. C'est-à-dire que c'est une mesure de sauvegarde, si vous voulez, mais c'est pas... c'est combien de temps, cette suspension ? C'est pour, est-ce que vraiment, c'est la fin ? Est-ce que vous fermez son compte ? Ou est-ce que c'est 6 mois ou machin de plus, etc. En gros, on se prononcera sur votre décision quand ce sera une décision et pas juste une mesure de sauvegarde.
Ah, je ne l'avais pas compris comme ça. Effectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Et donc, ils ont renvoyé la balle à Facebook en disant « Non, mais là, effectivement, il faut prendre une décision. Il faut que les choses soient claires. Pas juste on suspend, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps. » C'est peut-être...
Exactement.
Ouais, tout à fait. Donc, on en est à ce stade. On ne sait pas comment va réagir Facebook exactement. Peut-être qu'ils vont clarifier les choses. Ce qui est intéressant, c'est que au moment même, les choses étaient assez claires, il y avait un danger à l'ordre public qui était établissable, et c'est la raison qu'a invoqué Facebook. Maintenant, peut-être qu'ils auraient dû préciser les choses. Donc, il y avait un petit peu urgence. Peut-être qu'ils auraient dû préciser les choses ensuite. Je ne pense pas qu'ils vont remettre le compte, qu'ils vont réaccepter les comptes de Donald Trump de sitôt, parce que c'est... se poser des problèmes plus qu'autre chose. Ceci dit, Donald Trump forge ahead, il continue à aller de l'avant et il a créé une sorte de... Il a annoncé un nouveau média avec sa nouvelle campagne qui est Save America. Et son nouveau média, c'est un... Comment dire ? C'est une section sur son site.
C'est un blog.
C'est un blog.
Voilà.
Sauf que les articles de blog sont... assez court pour être des tweets, plus ou moins, et sont de la nature de ce qu'il tweetait quand il avait accès à Twitter. Donc voilà, je ne sais pas si on peut dire perplexe, c'est un petit peu ridicule.
En tout cas, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que les choses vont mieux depuis qu'il n'est plus là, tu vois ce que je veux dire. Enfin, plus là, je parle sur les réseaux sociaux. Moi, je voyais les journalistes des rédactions américaines qui disent « ça y est, moi, on s'est remis à dormir la nuit et pas à se dire « quand je vais ouvrir un œil à 5h du matin, je vais ouvrir mon téléphone et je vais voir les 5 tweets qu'il a lâchés, il va falloir immédiatement qu'on fasse un truc sur la réaction au tweet. » Enfin, c'est le truc qui va dicter ma journée et là, tout à coup, c'est terminé. Donc, tout à coup, c'est « qu'est-ce que c'est calme ?» Parce que pendant ce temps-là, forcément, côté Biden, les choses sont calmes, avancent tu vois, doucement, normalement. Non, on ne s'endort pas parce qu'il se passe des trucs, mais qui sont de l'ordre de la politique, je n'ai pas envie de dire normale, hein, parce qu'il y a quand même des vrais projets d'infrastructure, des trucs qui manquent aux États-Unis, oui. mais des choses plus, voilà, plus attendues, plus normales, ce que tu attends d'un président. Enfin, tout à coup, tu es quand même face plutôt à une présidence apaisée. Tu vois. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil sur Twitter, c'est pas le royaume de l'inflammation, quoi.
Il y a une étude qui vient d'être publiée sur une étude de l'organisme Newsweep qui a établi le fait que le nombre d'interactions sur les sujets sur Donald Trump a chuté de presque 50 millions à environ 2 millions d'interactions par jour. Alors évidemment, le fait qu'il n'est plus président a une influence là-dessus, mais également le fait qu'il soit plus présent sur les réseaux sociaux, comme tu parlais de cette absence d'inflammation, c'est évidemment important. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur son site, le Desk of Donald Trump, sur le site de Donald Trump, c'est une nouvelle section, immédiatement, on a une pop-up qui vous demande votre nom, votre email, votre numéro de téléphone. Et après, on peut voir effectivement les tweets, les messages de Donald Trump qui sont exactement de la nature de ce qu'ils étaient sur Twitter, avec des accusations sur la prétendue fraude pendant l'élection. C'est Donald Trump, quoi. C'est intéressant parce qu'il a en quelque sorte son propre Twitter, mais s'il y a une réflexion plus large à se faire là-dessus, c'est que... Ça montre la puissance qui n'était peut-être plus à établir de Twitter et Facebook. On peut se faire son propre, entre guillemets, Twitter ou Gab ou Parler ou ce que c'est. Quand on n'est pas sur la plateforme de référence, la plateforme principale, bah c'est un petit peu comme si on était dans l'arrière-cour et qu'on peut crier autant qu'on veut, personne dans la rue ne vous entend, quoi. Donc ça remet presque un petit peu en avant la puissance des réseaux sociaux, même si, comme je le disais, elle était plus à établir, on va dire.
C'est pas si évident que ça, parce qu'on voit que le fait d'être absent des réseaux sociaux a pas réduit Trump au silence. Alors, il fait ses communiqués de presse sur le communiqué du 45e président des États-Unis, machin. Et puis, il a quand même encore énormément de soutien qui apparaissent partout, alors sur tous les médias conservateurs et ailleurs. Mais pour autant, on aurait pu penser que la fin de son mandat et puis la fin en capilotade totale, enfin, tu vois, tout à coup le réduise au silence et le projette directement dans les poubelles de l'histoire. Eh bien, pas du tout, parce qu'il reste quand même aujourd'hui encore comme le prochain candidat logique des Républicains, ce qui est fou quand tu confrontes ça à la réalité objective. Mais on le voit bien, hein, les quelques élus républicains qui disent non, mais Trump, il faut arrêter, il faut passer à la suite, c'est terminé, c'est un épisode de notre histoire, maintenant trouvons-nous un autre candidat. Mais ils sont à moitié bannis du Parti républicain. Enfin, c'est-à-dire que la base, elle, apparemment, a encore très, très envie de revoir un Trump au pouvoir, ce qui serait... Non, mais t'imagines, hein, t'imagines, dans 3 ans, Trump réélu. Non, mais attends. Bon. Et accessoirement, on dit que Biden est vieux, mais enfin, là, quand même, il se mettrait à sucrer les fraises assez sérieusement. Hein. Bon. Donc le fait d'être sorti des réseaux sociaux l'a pas réduit au silence et a pas réduit son clout, comme on dit, tu vois.
Oui, disons que c'est un petit peu plus dans les coulisses, on va dire, mais comme tu le dis, dans les médias, il est moins présent, mais oui, il a sa base qui est toujours fidèle, à la fois dans le parti et dans la base des électeurs. Bon, parlons un petit peu de tech. J'ai des sujets un petit peu plus rapides. Tu m'arrêtes s'il y a un sujet qui t'intéresse, dont tu veux parler spécifiquement. Twitter a commencé à mettre en place son tip jar, sa petite caisse à pourboire, pour permettre à n'importe qui d'utiliser Twitter pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Et c'est généralement des créateurs qui vont bénéficier de cette fonctionnalité. Alors, tout le monde n'a pas encore aujourd'hui la possibilité de mettre en place ce système, mais quand ça sera en place, eh bien, vous pourrez, ceux qui seront sélectionnés, j'imagine, pourront avoir un bouton supplémentaire sur leur profil pour demander des sous et on pourra payer par différents moyens, PayPal, Patreon, etc. Donc, c'est un moyen de plus pour la thank you economy, la creator economy, de continuer à pouvoir vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que Twitter ne prend pas de commission là-dessus. Ils externalisent le paiement, en tout cas pour le moment, à d'autres sociétés comme PayPal ou autres. Ou Patreon d'ailleurs, donc peut-être que...
C'est admirable de leur part, parce qu'évidemment, la tentation a dû être grande de dire « Tiens, on va inventer notre propre tip jar, parce que bordel, on est quand même Twitter ». Et accessoirement, à côté de Twitter, il y a Square, qui est quand même, tu vois, l'autre bras armé de Jack Dorsey, oui. Donc ils savent faire du paiement en ligne, ils savent faire du paiement, ils n'ont pas de souci avec ça. Ils auraient pu dire, on fait notre propre petit jar, et puis voilà, au titre de la gestion du truc, on va prendre, je ne sais pas, 5 points, 10 points, 10 points, 15 points sur les donations, comme les autres. Et ils ne l'ont pas fait, et je trouve ça à la fois surprenant, parce que là, pour le coup, si j'étais... tu vois, au conseil d'administration de Twitter ou même juste actionnaire de Twitter, je dirais, ben, pourquoi vous ne l'avez pas fait, tout le monde le fait. Mais c'est admirable parce qu'on a l'impression qu'ils veulent encourager un mouvement plutôt que de juste se créer une nouvelle fenêtre de business. Donc, on n'a toujours pas compris quel est le prochain move de Twitter en termes de business. Est-ce que c'est l'abonnement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose?
Ça, c'est la grande question. Guillaume nous précise dans la chatroom que Cash App est l'une des possibilités pour envoyer de l'argent et en fait un bras de Square. Donc ils sont quelque part Jack Dorsey est quelque part dans le truc. Mais oui, ce que tu dis est parfaitement vrai, ils n'ont pas en plus de ça pris, enfin même pas en plus, ils n'ont pas pris une commission, ce qu'ils auraient pu faire. À côté de ça, ils ont changé l'affichage des images. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois déjà, il y avait eu des scandales et des problématiques qui avaient été mises en avant par le cadrage des images qui essayait de se focaliser sur les parties les plus intéressantes de l'image sur Twitter, ce qui amenait à des problématiques quand on avait vu que ça cadrait plus sur les blancs que sur les noirs, quand il y avait des personnes dans l'image et ce genre de choses. Alors aujourd'hui, ça ne cadre pas, ou quasiment pas, on va dire, donc ça affiche les images en entier. C'est un peu problématique parce que ça affiche des images, genre une image prend toute la place de votre écran sur l'application Twitter ou presque, mais bon, au moins il n'y a plus de problème de décider qu'est-ce qu'on va afficher ou ne pas afficher. Vous vous souvenez de Windows 10 X qui était censé arriver avec les Surface Duo. Et non, c'était la Surface Neo plutôt. Je ne dois pas me tromper entre les deux. Eh bien, d'après Brad Sams, un insider leaker des actualités de Microsoft, sans doute le plus connu, il semblerait que Windows 10 X soit un petit peu relégué aux oubliettes carrément et qu'il ne verra pas vraiment le jour au-delà de ce qu'on connaît déjà avec la Surface Neo. Et qu'ils se concentrent plus sur Windows 10 tout court, y compris avec des systèmes sous ARM. Donc, ils abandonnent encore une version allégée de Windows, après Windows RT, Windows for ARM, Windows, enfin, il y en a eu plein. Et maintenant, ça sera juste du vrai Windows, entre guillemets, qui sera un petit peu partout. C'est notable parce que on pensait pendant un moment que, enfin moi je le pensais en tout cas, que Windows 10 X pourrait être une refonte de Windows qui serait destinée à être présente sur plus d'appareils. Il semble maintenant que ce projet soit un petit peu oublié.
Et c'est dur de courir plusieurs lièvres à la fois et tout à coup, c'est vrai qu'en faisant un fork dans ton système, bah, tu signes un peu pour longtemps pour arriver à le maintenir, à l'adapter, etc. etc. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait un projet stratégique derrière ça. On verra. Hein. Peut-être que ça va revenir. Tu sais, tout ça est cyclique.
Et puis, peut-être qu'ils se sont rendus compte avec le M1 d'Apple que les processeurs ARM peuvent tourner suffisamment bien pour faire tourner des appareils, des systèmes complexes maintenant. Donc, ils n'ont pas autant besoin de simplifier le leur. Google a suivi un petit peu Apple, ils se suivent toujours tous les uns les autres, hein, mais c'est vrai qu'Apple imprime des mouvements souvent un petit peu plus importants dans l'industrie. Et là, sur le Google Play Store, ils ont lancé un programme qui impose aux utilisateurs, enfin aux applications, aux développeurs, de dévoiler toutes les informations de vie privée auxquelles ils ont accès dans leur app. Donc, de la même manière que cette chose qui a fait beaucoup de bruit chez Apple s'est mise en place avec iOS il y a quelques mois, eh bien, ça va se mettre en place sur Google Play aussi. Ils n'ont par contre, bien sûr, pas été au point de dire qu'ils allaient demander aux apps, ils allaient imposer aux apps de demander aux utilisateurs quand ils devaient utiliser leur vie privée. Donc, vous aurez les informations, c'est déjà pas mal. Mais contrairement à iOS, il n'y aura pas de pop-up qui va s'afficher pour vous demander si cette app a le droit d'utiliser vos informations privées. Évidemment, le fonds de commerce de Google, c'est la publicité, donc ils ont un peu moins intérêt à le faire. Et puis, sur ce sujet, on peut noter que dans le cadre de cette pop-up qui vous demande l'autorisation d'utiliser vos informations privées sur iOS depuis l'arrivée d'iOS 14.5, il y a quelques semaines de ça, l'étude de Flurry Analysis, un cabinet d'études, semble montrer que seuls 4% des utilisateurs d'iPhone américains ont accepté de donner leurs données privées. Ça, c'est pour les Américains. Et dans le reste du monde, on monte à 12%. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence entre les deux, mais on est à 4 et 12%. ce qui est quand même extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moyens de faire de l'argent par la publicité, mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, on n'a pas besoin de se relancer dans tous ces détails, mais ça veut dire que les organismes de publicité ont, surtout quand ils utilisent des informations de sociétés tierces, ont moins de possibilités pour vous cibler de manière spécifique. Donc, vous affichez des publicités qui sans doute vous intéressent moins et en même temps vous traquent moins. Notons encore une fois que ça ne touche pas les informations que la société qui fabrique l'app que vous utilisez a déjà sur vous. Donc, dans le cas de Google ou Facebook, ça ne les embête pas tellement pour leur application même. Évidemment, pour les sociétés tierces avec lesquelles ils travaillent, c'est problématique. Mais pour leur application même, ils ont toujours toutes les informations sur vous. Hein. Ça ne les supprime pas.
Et c'est un peu Google, tu vois, qui est quand même dans une démarche de « regardez, je ne suis pas Facebook ». c'est de l'affichage, mais c'est pas que de l'affichage, mais c'est un truc quand même assez délibéré sur moi aussi j'ai des données sur vous, mais d'ailleurs je vous montre de manière très transparente lesquelles, je vous permets de les retirer et je lance des initiatives pour que mon écosystème me suive sur la même voie. Et du coup, Google se retrouve un peu dans le camp d'Apple face à un Facebook qui lui est bien bien seul quand même dans l'ensemble. Et je pense que ça va pas s'arrêter, mais c'est aussi parce qu'ils sentent un peu le vent du boulet de canon qui passe près de leur tête, parce que la nouvelle administration Biden et le Parlement aux États-Unis va s'attaquer quand même à tout ça de beaucoup plus près. On va encore voir des CEO de grandes sociétés tech, tu vois, interroger, machin, etc. Mais là, il va y avoir des vraies procédures derrière.
On est d'accord. Il semblerait que Netflix s'intéresse aux podcasts et aux playlists de séries et de musique générées par des utilisateurs. Donc peut-être que vous allez pouvoir suivre vos créateurs préférés, vos amis sur Netflix pour avoir des informations, enfin des listes de trucs à regarder. C'est marrant parce que c'est vraiment Netflix qui... les podcasts, je ne sais pas. Hein, est-ce qu'on va pouvoir écouter les podcasts dans l'application Netflix? Ça me paraît un petit peu étrange.
Je serais un peu curieux quand même. Hein.
On est d'accord. C'est juste des questions qu'ils posent dans des sondages. Hein, donc, c'est vraiment très, très... c'est complètement... comment dire? On n'est pas du tout dans l'implémentation. Hein. C'est vraiment qu'ils s'intéressent à la chose, mais des playlists, pourquoi pas? C'est marrant, on est vraiment dans la période où Netflix est établi et ils essayent de trouver des nouveaux trucs à faire, quoi. Et ça serait un service qui pourrait s'appeler N+. Est-ce que ça serait un truc payant? Je ne sais pas, mais quand on me dit quelque chose plus, maintenant, je pense tout de suite à machin plus, machin pro, machin premium. C'est genre, peut-être que ça serait une idée pour essayer d'offrir un service en plus du service qu'ils offrent déjà, qui serait plus cher, je ne sais pas.
Ils sont sous la pression quand même de leurs actionnaires, de tout ça. À un moment où le recrutement de nouveaux abonnés s'essouffle, ce qui est un peu logique, à un moment, tu as fait le plein quand même. Et puis face à un Disney+, qui lui aussi a fait le plein, mais de manière, avec une vélocité qui est absolument ahurissante. Je ne sais plus à combien ils sont, 120 millions d'abonnés payants, enfin des trucs de fou. Donc qu'est-ce que tu peux faire quand ce n'est plus la croissance de ton nombre d'abonnés qui fait ta croissance? Il faut que tu te trouves de nouvelles activités, soit tu rachètes le voisin, soit tu inventes de nouvelles choses. Donc c'est vrai que Netflix pourrait devenir une application d'agrégation de contenu, même si pour l'instant, si tu veux, l'énorme bénéfice de Netflix, la grande force de Netflix, c'est sa lisibilité. Quand tu démarres Netflix, tu sais pourquoi tu le fais. Tu vas voir un film, une série, un documentaire, etc. etc. Tu ne vas pas écouter des podcasts voir des vidéos d'internautes. Enfin, tu vois, c'est ni YouTube, ni Apple Podcasts, ni Spotify. Mais ils ont raison de tenter des trucs. Hein. On ne sait jamais, ça peut marcher.
D'explorer, en tout cas. Petite étoile à Guillaume qui dans la chatroom lui encore dit tous ses abonnés à Disney+ qui se sont abonnés pour pouvoir suivre Super Laser Punch, mon podcast où je fais les débriefs des séries Marvel. C'est tout à fait vrai, Guillaume. Super Laser Punch a été une opportunité incroyable pour Disney+ et je pense qu'ils en sont bien reconnaissants. IBM a créé les premières puces en 2 nanomètres. Alors, vous savez que les prochaines technologies, c'était 3 nanomètres pour le reste de l'industrie. C'était, différentes société qui était en train de travailler sur le 3 nanomètres, Samsung et TSMC, si je ne me trompe pas. Alors, IBM, ils n'ont pas vraiment de fonderie eux-mêmes, donc ils développent les technologies et puis ils font des licences à d'autres. Et puis c'est important de noter que leur technologie de nanomètre, en fait, la finesse de gravure est importante bien sûr, mais ça dépend aussi de l'écartement des circuits. En gros, je vous résume les choses, le 2 nanomètre de IBM, c'est un petit peu l'équivalent en nombre de processeurs par pouce du 3 nanomètre des autres. Mais bon, c'est un petit peu plus finement gravé, peut-être que ça sera un petit peu plus économe en énergie, mais c'est notable tout de même, IBM continue à développer ce genre de choses, et donc on continue à aller de plus en plus fin dans la gravure des processeurs. On n'est pas encore arrivé au bout de la loi de Moore, même si bon, elle ne s'exprime plus exactement de la même manière.
C'est incroyable, hein. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser aujourd'hui des choses qu'on tenait pour physiquement impossibles il y a 10 ou 15 ans. Moi, je me souviens des gens d'Intel, en l'occurrence, qui disaient « Ouh là là, une fois passé sous les 10 nanomètres, c'est-à-dire que tout à coup, vous avez des circuits qui font, je dis une bêtise, mais tu vois, 5 atomes de large, enfin. »
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que, et vu qu'il y a une marge d'erreur, bon, bah, est-ce que ça marche encore s'il n'y en a plus que 4? Enfin, tu vois, c'est, c'est chaud. Mais c'est beau de voir que ça continue à avancer. Et en plus, ça a quand même des effets induits sur l'autonomie, la consommation, sur tout ce qu'on peut faire avec ses puces et tout. Non, c'est, moi, ça fait 20-25 ans qu'on dit « bon, allez, la loi de Moore, c'est terminé ». Alors, le rythme, oui, c'est le côté « on double le nombre de transistors sur la même surface en 18 mois ». Oui, ça, c'est fini. Mais parce qu'il ne faut pas déconner, les arbres ne montent pas de manière exponentielle jusqu'au ciel. Mais ça continue à progresser régulièrement, donc c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu penses qu'on va taper sur un mur et qu'il va falloir changer radicalement les technologies qu'on met en œuvre, et en fait non, en fait ça continue. Moi je suis ma capacité d'émerveillement n'est pas épuisée.
On est d'accord. Je vais juste passer très rapidement sur le fait que Facebook est en train de lancer son produit Neighborhoods, qui est donc pour se connecter aux personnes, enfin des sortes de groupes de personnes qui vivent près de chez vous. Ça concurrence un petit peu Nextdoor, et ils sont en train de passer dans une nouvelle phase de test au Canada et aux US. Donc ça va arriver, mais je voudrais surtout parler de deux choses en plus. D'une part, l'intelligence artificielle qui continue à faire des choses inattendues. Il y a Dr. Phil, qui est un programme d'intelligence artificielle qui a réussi à mieux faire dans un tournoi de mots croisés qu'un millier de participants. Donc, bon, les mots croisés, on peut imaginer comment ça pourrait fonctionner. Mais voilà, l'intelligence artificielle continue dans ce domaine. Et puis, il y a aussi DeepMind, la division de Google, qui est en train de travailler avec l'équipe de football de Liverpool pour essayer de voir si leur intelligence artificielle pourrait les aider à développer des stratégies. On n'y est pas encore au fait que le DeepMind va jouer au foot à la place de l'équipe, mais peut-être pour développer des stratégies qu'ils n'auraient pas sans intelligence artificielle. C'est intéressant parce qu'on sort de la frontière de l'informatique et on touche à des applications un petit peu plus pratiques dans le domaine du sport. Et enfin, le truc un petit peu intéressant, bizarre de l'épisode, c'est le render porn, qui est encore un truc artificiel, pas de l'intelligence, mais de l'image. Est-ce que tu sais ce que c'est que le render porn? Je précise que ce n'est pas du porno, mais est-ce que tu sais de quoi il s'agit, Cédric?
Oui, il y a des graphistes hein, qui sont souvent d'ailleurs des gens qui ont des formations d'architectes, dont c'est la spécialité. Ça a un nom en français, flûte. C'est des spécialistes de la perspective souvent. Et le render porn, c'est des intérieurs, tu vois, de déco totalement inventés, mais dans un mode tellement photoréaliste que voilà, tu remets en question ce que voient tes yeux en disant mais c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que, etc. C'est incroyable. Il y a des choses qui sont absolument incroyables, bon, qui font rêver aussi, mais c'est bien parce que évidemment c'est virtuel, donc ça n'existe pas. mais je savais pas que ça avait un nom. Moi, c'est des choses que je vais voir souvent parce qu'il y a plein de Français qui font ce genre de choses. Mais ça, c'est juste drivé par le fait qu'on a des moteurs de rendu qui sont maintenant
d'une puissance incroyable, on a des modèles 3D qui sont d'un détail incroyable, mais c'est vrai que tu vois, avant, modéliser, je sais pas, l'intérieur d'un salon, bon bah ok, très bien, mais tu voyais bien que ton canapé, c'était pas un canapé en cuir, il y avait pas assez de polygones. Et là, il y a un détail, des textures, les plis, les trucs, enfin, t'y crois, c'est incroyable. Il faut aller voir ça. Alors, je savais pas que ça avait un nom. Taper Render Porn.
Oui, je ne sais pas si c'est un nom qui est établi. L'article du New Yorker dans lequel j'ai trouvé ce sujet l'appelle Render Porn. Mais effectivement, c'est un petit peu, vous vous souvenez de « Cette personne n'existe pas »,« This person doesn't exist », qui sont des visages de personnes générées par intelligence artificielle. Donc, c'est des personnes vraiment 99% photoréalistes qui, en réalité, n'existent pas. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est « This room doesn't exist ». Et on est à la frontière, alors c'est clairement photoréaliste, mais il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. On a des courbes étranges, il y a certaines images où il y a des tonnes de tapis partout quelque part, on ne ferait pas une maison comme ça, il y a des courbes, des intérieurs bizarres. Et c'est assez fascinant, je dirais, ce n'est pas aussi fascinant que le « This person doesn't exist », mais c'est esthétiquement assez « pleasing for the eye », je dirais. Et c'est très, très, comment dire, c'est une des tendances qu'on n'aurait pas pu vu venir et qui est rendue possible par ce genre de technologie, effectivement. Et les rendus sont impressionnants.
Et je suis d'accord avec l'article qui dit que tout ça est très apaisant, en fait, à compulser, à regarder. Enfin, c'est tout à coup, c'est vraiment juste votre œil essayer de choper des détails pour voir, pour comprendre. Enfin, allez voir ça.
Tout à fait. Et voilà pour notre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, que vous avez été distrait, amusé peut-être même parfois. Si vous voulez encore plus d'amusement, de distraction et d'apprentissage, peut-être que vous pourriez aller jeter un coup d'œil du côté de ce que fait Cédric. Comment le feraient nos auditeurs, dis-moi Cédric ?
Le podcast Les Doigts dans la Prise, là ça y est, le nouvel épisode arrive, c'est promis, j'ai juste mis 2 semaines à le monter. Ça c'est le problème des hobbies, c'est que tu n'arrives pas à t'astreindre à un rythme. C'est pour ça que Patrick est un être exceptionnel, parce que lui il a compris depuis longtemps que le podcasting c'est du marathon, et que surtout il faut s'y tenir. Et c'est très dur de s'y tenir quand c'est pas ton activité principale. Et puis, Cédric sur Twitter.
Magnifique, Les Doigts dans la Prise pour toute l'actualité des véhicules électriques et des voitures électriques. Et puis Cédric sur Twitter. Et oui, effectivement, il faut tenir, et le podcast, ça ne se fait pas par magie, ça se fait par de la volonté et du travail. Et vous savez que s'il n'y a pas de rémunération pour ce travail, au bout d'un moment, ça casse pour différentes raisons. Par exemple, parce que la vie arrive et qu'il y a des enfants ou des changements. Et si j'ai pu continuer à faire cette émission pendant aussi longtemps, et si j'espère pouvoir continuer pendant encore très longtemps, c'est grâce à vous, avec Patreon. Et je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Si vous appréciez l'émission, si elle vous rend service, allez faire un tour sur patreon.com/rdvtech pour contribuer à l'émission. Tout simplement, c'est grâce à vous, grâce à ça que l'émission existe et que je peux en faire mon travail. Et si vous voulez plus de Patrick, vous pouvez aller sur notepatrick.com où vous trouverez notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, sur YouTube, sur Twitch, un petit peu partout. Je suis notepatrick un petit peu partout et vous pouvez me retrouver là-bas pour les émissions comme Super Laser Punch, par exemple, au hasard, ou le rendez-vous jeu. On va parler de trucs hyper intéressants ce jeudi dans le rendez-vous jeu, comme par exemple des rumeurs sur la prochaine génération de casques de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 5, sur laquelle on a eu de nouvelles informations. On vous révélera ça, on vous en parlera jeudi dans le rendez-vous jeu. On va faire un petit after show pour les Patriotes, un des nombreux bonus que vous avez quand vous êtes Patriote. Vous aurez cette petite discussion avec les membres de la communauté. Donc, si vous êtes Patriote, vous avez dans votre flux privé, en plus des éditos et de tous les bonus que je vous y livre, ce petit after show. Si c'est votre cas, je vous retrouve tout de suite. Si ça n'est pas votre cas, je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous.